C'est moi qui commence en présentant la vie, d'où au fond cette aventure est partie. Elle est partie de cette conception que nous avions avec Roland Guagou de la formation professionnelle. Quand on conçoit de la formation professionnelle, vous comme nous, on est en but à se poser la question de quelles sont les pratiques de formation efficaces. Et je vais en citer deux. La première, qui est ce dispositif que j'appellerais classique, auquel nous participons tous et toutes. Ce sont ces conférences pédagogiques que nous animons le soir à 5 heures le mardi, ou le mercredi après-midi, dans lesquelles nous faisons des exposés, des résultats de la recherche les plus récents. Et puis, nous apportons donc des connaissances aux enseignants en postulant que les connaissances que nous transmettons sur ces 3 heures ou sur ces stages de formation continue vont modifier leur pratique en conséquence. Je présente un résultat et donc les enseignants devraient être automatiquement capables d'infléchir leurs pratiques pour essayer de les rendre en conformité avec les résultats des travaux. Et puis une autre manière de concevoir, et c'est la nôtre, c'est au lieu de rentrer par les connaissances, eh bien on rentrera par un dispositif d'intervention. Autrement dit, on va donner aux maîtres, aux enseignants, un outil, innovant ou pas, peu importe, mais un outil dont on suppose qu'il va infléchir leur pratique parce que justement il introduit des dimensions qu'on ne voit pas dans leur classe habituellement. Je dis innovant ou pas, hein, on peut vous trouver des outils assez anciens que les enseignants n'utilisent pas pour diverses raisons et qu'on va les aider en les formant à adopter. Et notre hypothèse, c'est que, bien, une fois qu'ils auront utilisé l'outil, accompagné par nous, accompagné par vous, eh bien, on va voir que, en les accompagnant, leurs connaissances vont être modifiées et leur pouvoir d'agir va être amélioré. Donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit tout notre travail de conception d'outils depuis un certain nombre d'années. Peut-être connaissez-vous certains de nos ouvrages, Phono, Catego, Ordo, Lector Lectrix, Lectorino, Lectorinette, voilà, c'est cette famille d'outils. Alors, ainsi naissent nos outils. Eh bien, nos outils naissent de cette activité de recherche que nous menons avec Roland Guagou dans le laboratoire Actée, qui est centrée sur l'amélioration des conditions d'enseignement faites aux élèves de milieux populaires et aux élèves les moins performants du système éducatif. Donc, c'est au sein du laboratoire Actée que nous menons cette activité qui nous amène à réfléchir sur la question qu'on se pose tous et toutes depuis 1981, la date de la création des REP: donner plus à ceux qui ont moins, oui, mais donner plus de quoi à ceux qui ont moins de quoi, et surtout le donner comment. Et là-dessus, toutes les hypothèses ne se valent pas, et c'est sur ces hypothèses que je vais raisonner avec vous une partie de la matinée. Ensuite, vous allez voir que c'est une conférence à deux voix, puisque Isabelle prendra la parole, mais tout le début va être centré sur que nous dit la recherche, sur ces questions de développement des enfants de milieux populaires, autour de ces questions de compréhension et de langage. Ainsi naissent nos outils, c'était le titre. Notre conception première, c'est de partir des résultats de la recherche en psychologie cognitive, en psychologie du développement et en sciences de l'éducation, pour essayer de répondre à cette question qui est au-dessus: donner plus de quoi à ceux qui ont moins de quoi et le donner comment. Donc puis on part aussi des besoins d'enseignement des élèves de milieu populaire, c'est-à-dire qu'on met en regard ce que la recherche nous permet de déduire sur les besoins d'apprentissage des élèves et sur les besoins d'enseignement de ces mêmes élèves, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la recherche, est fondamental et qu'est-ce qui nous paraît encore insuffisamment développé, enseigné à l'école maternelle. Et partir donc du même coup des besoins des enseignants de maternelle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il suffise de dire aux gens: voilà ce que dit la recherche, transformez ça en activité, transformez ça en tâche, transformez ça en scénario. Je pense que les enseignants ont bien mieux à faire que de construire leurs outils de travail, compte tenu du temps que ça leur demande, des compétences que ça demande que de concevoir des outils. Je pense que les enseignants ont mieux à faire que ça et en tout cas ne peuvent pas le faire. On ne peut pas être aujourd'hui expert en mathématiques, expert en lecture, expert en langage, expert en motricité. Voilà. Et donc, il nous semble, et là je parle avec Roland Guagou, que c'est encore le travail des chercheurs que de concevoir des outils. Je le dirai souvent aujourd'hui, on a une manière de concevoir les outils qui est assez particulière. C'est, oui, c'est le travail des chercheurs de commencer à concevoir, mais on ne peut pas aujourd'hui, selon nous, concevoir des outils sans les mettre. Et donc, dans notre travail de conception, on a dès le départ, avec nous, en association avec nous, une équipe d'enseignants très resserrée, 30 enseignants, qui travaillent depuis 4 ans avec nous à ce processus de conception. J'en dirai plus tout à l'heure. Donc, partir des besoins des enseignants de maternelle, et aussi, et surtout, pas surtout, et aussi, mettre tout en œuvre pour répondre à la prescription. C'est-à-dire que pour nous, les outils pédagogiques ne peuvent pas être non adaptés à la prescription, celle des inspecteurs généraux d'une part, et celle des programmes d'autre part. Et j'en rajouterai une qui n'est pas véritablement une prescription, mais celle des ressources d'accompagnement, qui donne aussi beaucoup d'indications. 2009, peut-être connaissez-vous, lecteur lectrice arrive. 2012, lecteur lectrice collège est publié. Les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'ONG Inter-Aide. 2013, lectorino et lectorinette est publié. Les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'ONG Inter-Aide. C'est une vieille diapositive, j'ai mis au futur. Voici l'ONG à laquelle nous contribuons et tout l'argent que vous versez quand vous achetez nos outils, ils sont reversés à Haïti et à Madagascar. À Madagascar pour construire des écoles, former des enseignants locaux et payer les enseignants locaux. Et Haïti, appuyer la scolarisation aux primaires. Donc merci pour eux. Donc trois outils didactiques qui ont exactement le même objectif, enseigner explicitement les connaissances requises pour comprendre les textes. C'est ce qui me fait dire que si nous avons travaillé au cycle 2, au cycle 3 et au cycle 4, c'est bien que cet apprentissage de la compréhension est long et ne s'arrête pas à Lectorino par exemple, mais selon nous doit être poursuivi tout au long de la scolarité avec des objectifs plus ou moins différents. Une même méthode de construction, je l'ai dit, la conception continuée dans l'usage des maîtres, c'est-à-dire que dès le départ, nous nous associons à une équipe d'enseignants qui va nous aider à concevoir, à adapter, à ajuster, à modifier nos propositions didactiques. J'en dirai plus long tout à l'heure. Et toujours les mêmes questions dans les actions de formation continue des cadres de l'éducation nationale et des enseignants. Pourquoi attendre le cycle 2 ? Pourquoi ne pas commencer plus tôt à enseigner la compréhension ? Pourquoi ne pas commencer à l'école maternelle ? Et les maîtres et les cadres de l'éducation nationale ont raison. L'enseignement de la compréhension maternelle, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que on a montré, quand je dis « on », c'est un certain nombre de chercheurs, et vous voyez apparaître la référence en bas de l'écran, Vandenbroek et ses collaborateurs ont montré que dès l'âge de 3 ans, les enfants sont capables d'entrer dans une compréhension fine des textes narratifs. Certains en sont d'ailleurs plus capables que d'autres et nous y reviendrons. Et on a également montré que ces compétences précoces sont décisives. Elles sont décisives parce que la plupart des enfants qui quittent la maternelle, dans la catégorie des bons compreneurs, je m'excuse pour cet anglicisme, eh bien, sont encore rangés dans la catégorie des bons compreneurs en CM1, évaluation PIRLS, et sont encore rangés dans la catégorie des bons compreneurs en fin de quatrième. Et vous voyez que là, j'ai... Et de la même manière, ceux qui sont rangés dans la catégorie des faibles compreneurs le sont encore en fin de CM1 et le sont encore en fin de quatrième. Il n'y a pas là de fatalité. Il n'y a évidemment pas la fatalité, on ne peut pas dire que tout se joue en fin de grande section et que ceux qui rentreront en CP avec de faibles compétences seront automatiquement rangés dans cette catégorie. Mais compte tenu des pratiques pédagogiques mises en œuvre à l'école élémentaire, eh bien on peut être inquiet pour ces enfants qui quittent l'école maternelle sans avoir acquis les compétences requises pour comprendre. Et nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'une fois que les compétences de décodage sont réglées, alors les enfants comprennent. Et quand même... Il faut se le redire parce que les recherches sur la compréhension en lecture, elles sont récentes. Dans le champ de l'essence de l'éducation et de la psychologie cognitive, les premiers travaux portant sur la compréhension, les difficultés de compréhension, datent des années 80, tandis que les difficultés de décodage sont bien antérieures. Donc on a longtemps pensé qu'une fois que les enfants savaient décoder et savaient parler, alors ils comprenaient. Et ce sont les travaux des années 80 et aussi les observations des maîtres et aussi les évaluations nationales. Hein, rappelez-vous que les évaluations nationales ne datent que des années 90, qui ont mis en lumière que bon nombre d'enfants était parfaitement capable de décoder et pourtant ne comprenait pas. Alors, ne comprenait pas l'implicite. La plupart d'entre eux comprennent le littéral. Hein, c'est ce qu'on observe dans Pearl, c'est ce qu'on observe à PISA. Hein, les groupes des élèves mauvais compreneurs qui sont rangés dans les élèves mauvais compreneurs sont ceux qui décodent relativement bien, mais qui comprennent mal tout ce qui touche les inférences, l'implicite, etc. Et là-dessus, les données sont claires. Hein, 20% des élèves aujourd'hui ont de la peine à entrer dans une compréhension en profondeur des textes, quels qu'ils soient. En revanche, le nombre d'enfants qui ne décodent pas ou décodent mal, aujourd'hui, on le chiffre à 4% en CE1. Et parmi ces 4%, on peut compter plutôt des élèves qui présentent une dyslexie et des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Mais au fond, le problème de l'école aujourd'hui, ça n'est pas le code. Alors, qu'observe-t-on ? C'est que leurs difficultés, ça c'est intéressant, et les maîtres de Razette qui sont dans la salle vont confirmer ce que je dis. Ce qui est intéressant, c'est que leurs difficultés restent silencieuses au CP, au CE1. Leurs difficultés, moi je n'aime pas ce terme, je reprends celui des chercheurs. Moi je dirais leur manque de connaissances, leur manque d'apprentissage, leur manque d'enseignement. Donc ce manque-là, eh bien, on ne va pas l'observer au CP et au CE1. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand on regarde les évaluations de CP et de CE1, on voit que les gens choisissent des textes simples, adaptés à leur capacité de décodage. Les enseignants ou les personnes qui construisent des évaluations ont utilisé Anagraph et donc donnent des textes suffisamment déchiffrables. Et du même coup, avec une syntaxe aussi assez simple, du lexique un peu simple, et on vérifie quoi ? Qu'ils savent bien décoder. Du coup, ben oui, les élèves qu'on observe, n'apparaissent pas. Et les maîtres de Razette qui sont dans la salle peuvent vous le dire, vous avez tout un tas d'élèves qui sont signalés en grande section de maternelle parce qu'ils comprennent mal, ils ne sont plus signalés en CP au CE1, et on les retrouve signalés au CE2, parce que là, les difficultés de compréhension apparaissent, réapparaissent, parce que ça n'est plus le problème du code, mais bien le problème de la complexité des textes. Et constat supplémentaire, on le sait, les élèves faibles compreneurs sont majoritairement issus de familles de milieu populaire, avec une petite nuance. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats CEDRE de 2016. On voit que les difficultés, les écarts entre élèves de milieu populaire et élèves de milieu favorisé se réduisent dans l'évaluation CEDRE, ce qui est quand même une bonne nouvelle, même si elle continue à être importante. Mais on voit que l'école a permis de réduire une partie des écarts. Je vous engage à observer cette note d'information qui a été malheureusement publiée pendant l'été et qui a malheureusement passé totalement inaperçue. Voilà. D'où Naramous. Naramous, c'est donc pour essayer d'aider les maîtres à infléchir une partie de leur enseignement pour aider les élèves les moins performants ou ceux qui ont le plus besoin de... Il y aura. Donc, vous avez vu, j'ai inscrit 15 scénarios pour apprendre à raconter, apprendre à comprendre et à raconter les textes narratifs et acquérir du lexique à l'école maternelle. Donc, ces scénarios sont en cours de conception et sont en cours de publication. Donc, pour l'instant, il y en a deux qui sont sortis. C'est la sieste de Moussa que certains ont dans leur cartable. Je les remercie pour l'ouest. Et puis, celui-là, les deniers de compère lapin. Donc, le premier pour les moyennes sections, le deuxième pour les grandes sections. Et en janvier, nous aurons le machin pour les petites sections, et puis en mars, nous aurons autre chose, et puis mars, et puis mai, et puis juin, et puis, voilà. Et bien entendu, des scénarios différents pour les petites, moyennes et grandes sections, bien sûr, adaptés aux capacités de compréhension des jeunes enfants, et les droits d'auteur de Naramous sont intégralement reversés à l'ONG Intérêt. Donc nous n'avons aucun état d'âme à vous présenter ce travail, dont nous sommes très fiers, Isabelle et moi, qui participent aussi à la conception avec moi, et Roland Guagou. Et donc nous sommes très fiers de vous présenter ce travail avec toute bonne conscience. Alors, je poursuis. Enseigner la compréhension en lecture dès l'école maternelle, pourquoi ? Et là, je vais faire un retour par la recherche. À l'origine du projet, donc les résultats de recherche. Ce que je vais dire là ne vous apprendra rien, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se redire ça, ensemble, et de redonner aux enseignants ce goût du défi, finalement. Donc, nous le savons, vous le savez, les pratiques langagières familiales, les conversations familiales, les activités de lecture partagée, le matériel éducatif, les livres, les CD, les DVD, sont différenciateurs sur le versant des connaissances et des compétences requises pour comprendre les textes narratifs. À l'entrée à l'école maternelle, nous rappelait Jean-Paul Delahaye dans sa conférence « L'école de la refondation, pour qui, pourquoi ?», nous rappelait qu'à l'entrée à l'école maternelle, certains enfants ont bénéficié de 1000 heures de lecture et d'autres de zéro. Donc oui, c'est une... Alors attention, hein, de 1000 heures de zéro... Oui, c'est une donnée du métier. Oui, c'est une donnée du métier d'enseignant de maternelle que d'accueillir des élèves qui sont différents du point de vue de leur origine sociale et du point de vue des transmissions dont ils auront profité. Donc, tous les enfants n'entrent pas à l'école avec les mêmes dispositions à l'égard du langage écrit. Et là, vous reconnaissez les travaux de Bautier, de Lahire, de Rayou et de tout un tas d'autres que je ne cite pas, du groupe ESCOL et du groupe Reseda, et de tous les travaux de psychologie cognitive en contre. Donc, tous les enfants n'entrent pas à l'école maternelle avec les mêmes connaissances lexicales, les mêmes connaissances du monde et les mêmes connaissances syntaxiques. Oui, c'est une tarte à la crème de le dire, mais c'est important en formation, je le crois, de revenir sur des données. On a toujours l'impression, quand on parle avec les enseignants, qu'ils grossissent le trait, qu'ils disent « Oh, mais moi, les miens manquent d'eux, ils n'ont pas d'eux, ils manquent de vocabulaire ». Et oui, oui, c'est vrai. Et je crois que c'est important de faire le point avec les enseignants en leur disant « Oui, vous avez raison, cette intuition-là, elle est juste. » Elle est juste et... Il se trouve qu'on on utilisait beaucoup avant la recherche de Art et Risley, que vous connaissez sans doute, une recherche américaine qui a fait beaucoup de bruit, qui était titrée « La catastrophe précoce ». Enfin, en anglais, c'était « The early catastrophe », qui montrait les différences entre les enfants de milieux sociaux contrastés. Mais on n'avait pas les données françaises. Or, le Normand Paris et Cohen ont fait strictement la même étude que Art et Risley, et je vais prendre un peu de temps pour la présenter. Je crois qu'elle est importante pour vous et pour les maîtres, pour leur dire « oui, vous avez un bon diagnostic ». Ne restons pas au diagnostic, certes, mais votre diagnostic est juste. Donc, voici le protocole utilisé par le Normand Paris et Cohen pour évaluer les petits. La consigne était la suivante, l'équipe de recherche allait dans les familles et demandait à une partie du couple, la mère ou le père, de jouer librement avec leur enfant, avec ce matériel. Et ils enregistraient 20 minutes de langage spontané produit par les parents et l'enfant. Je vais m'intéresser seulement aux enfants. Art et Risley se sont beaucoup intéressés aux parents. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire cette recherche. Et ils étudient le nombre de mots produits par les enfants selon leur âge et leur milieu social pendant cet échange de 20 minutes. À 2 ans, à 2 ans et demi, etc. Voici les résultats. Voilà ce qu'on observe. Oui, dès l'âge de 2 ans, les différences sont observables. Les enfants de milieux favorisés produisent plus de mots dans l'interaction avec leurs parents que les enfants de milieux populaires. Mais vous voyez qu'à 2 ans, la différence est assez minime. Et plus ça va, plus les différences se creusent naturellement, mais on observe malgré tout que tous les enfants progressent. Tous les enfants progressent, mais vous voyez par exemple qu'à 42 mois, c'est-à-dire à 4 ans, eh bien, les élèves de milieu populaire produisent moins de mots que les élèves de milieu favorisé à 2 ans et demi. Voilà. Donc, maintenant, deuxième donnée, c'est le nombre de mots différents produits. Et là, de la même manière, eh bien, on observe que les élèves de milieu favorisé produisent plus de mots différents que les élèves de milieu populaire. Et que la différence est assez massive à 42 mois, c'est-à-dire à 4 ans. Et quand on observe le nombre de verbes produits, eh bien là, les écarts sont également très importants. Et quand on regarde la longueur moyenne des énoncés, eh bien, on observe, là encore, des différences sociales. Donc oui, quand les maîtres vous disent « oui, mais c'est difficile mon travail parce qu'il manque de vocabulaire », eh bien oui, ils ont raison de le dire. Ils ont raison de dire qu'il manque de vocabulaire, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas appris le même lexique que les enfants de milieu favorisé. Et c'est ça qui fait, à mon avis, toute la richesse de ce métier. C'est ça qui montre aux enseignants le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'enseignement de ces compétences, de ces habiletés qui, pour l'instant, sont construites de manière très différentielle. Revenons à présent, ou venons à présent à cette activité qu'on appelle en recherche les activités de lecture partagée. Ces activités de lecture partagée dont les jeunes enfants bénéficient chez eux, et on l'a vu avec beaucoup de travaux, pas tous, un certain nombre, certains, eh bien ces activités de lecture partagée favorisent le développement de compétences en lecture, à la fois sur le versant de la compréhension et du vocabulaire. Autrement dit, ces enfants qui, le soir chez eux ou la journée chez eux, ont leurs parents qui lisent avec eux un tas d'albums, eh bien vont prendre un avantage certain, à la fois sur le vocabulaire, mais aussi sur la compréhension. Et ces expériences sont d'autant plus efficaces que l'adulte attire à la fois l'attention de l'enfant sur le sens de l'histoire, le vocabulaire, les mots et les expressions, et les illustrations. Et là, j'attire votre attention sur le travail qu'a mené Stéphane Bonnery sur les lectures menées par les parents selon le milieu social et qui montre que les parents, selon leur milieu, n'attirent pas l'attention des élèves sur les mêmes choses. Dans certains cas, on est beaucoup dans la monstration, on montre les choses aux enfants et on explique le vocabulaire. Dans les milieux plus favorisés, on va s'intéresser plus au sens de l'histoire, au rapport de l'histoire avec les expériences du jeune enfant. Et donc, on ne va pas parler les mêmes choses avec les mêmes albums selon le milieu auquel on appartient. Ce qui montre bien que, y compris dans les milieux populaires, on a des activités de lecture partagée, mais qui ne portent pas tout à fait sur les mêmes objets. Stéphane Bonnery, c'est un rapport qu'il a rendu en 2014 et qu'on trouve en ligne facilement. Et donc, ces parents qui produisent ce type d'activité avec les enfants donnent ainsi accès à des connaissances du monde physique et social qui vont bien au-delà de celles qui se développent dans les conversations de la vie quotidienne. Quand on parle à propos d'albums, eh bien, on a un lexique qui n'est pas du tout celui qu'on utilise habituellement dans la conversation. On va parler de phénomènes psychologiques, de relations sociales qui ne sont pas celles qu'on observe nécessairement dans la vie quotidienne, mais qui vont aider l'enfant à réfléchir le monde, à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre les autres et lui-même. Et donc ces activités sont fondamentales, pas seulement pour construire le vocabulaire, mais pour construire tout un tas d'habiletés autour de la compréhension en lecture et de la compréhension du monde en général. Et ces pratiques s'observent plus souvent dans les milieux favorisés. Alors, gardons en tête ceci, que la quantité de vocabulaire dont dispose un enfant est l'un des meilleurs prédicteurs de la qualité de compréhension d'histoire entendue et de compréhension autonome. L'un des meilleurs. Vous allez voir par la suite qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est un très bon prédicteur. Vous le savez aussi bien que moi, au-delà de 10% de mots inconnus des enfants, du lecteur, le texte devient incompréhensible. Donc oui, le vocabulaire est important. Je dirais par la suite qu'il y a beaucoup d'autres composantes importantes. Donc lire des albums aux jeunes enfants est une stratégie nécessaire, mais ajoutons qu'elle est insuffisante pour faire construire le vocabulaire. On a le sentiment, et certains chercheurs l'ont même développé, rappelez-vous Alain Bentolila qui recommandait aux enseignants de maternelle de lire 3 albums par jour pour accroître le vocabulaire des jeunes élèves. Eh bien, oui, c'est sûrement une stratégie efficace, mais vous le savez, elle est efficace pour les élèves qui ont déjà beaucoup de vocabulaire. Peut-être connaissez-vous ces travaux qui montrent que quand on lit un album aux enfants, certains vont profiter de cette lecture pour accroître leur bagage lexical, pour accrocher un mot à leur base de connaissances, quand d'autres ne vont pas le faire. Et sachez que ceux qui vont le faire sont ceux qui ont déjà stocké dans leur base de connaissances un grand nombre de mots. Donc, ça n'est pas automatique. Vous-même, quand vous lisez un livre, eh bien, vous allez rencontrer un mot inconnu, vous allez le comprendre en contexte. Faites-vous l'effort de le mettre en mémoire? Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Parfois, le fait de le comprendre en contexte vous suffit parfaitement. Parfois, vous allez avoir envie de l'apprendre et de le mémoriser. En tout cas, est-ce que c'est fait consciemment ou inconsciemment? Parfois, c'est fait totalement inconsciemment. Ça va là-dessus? Donc, ne pensons pas qu'accroître la quantité de lecture augmente automatiquement le stock lexical des enfants. S'il n'y a pas une action pédagogique, consciente, explicite, bon nombre d'enfants vont être contents de comprendre en contexte, mais ne vont pas faire l'effort supplémentaire pour le mettre en mémoire quand d'autres vont le faire. Et là encore, Cette pratique pédagogique qui consiste à ne pas expliciter l'importance de la mise en mémoire va être dommageable pour les élèves qui ont moins de vocabulaire et non dommageable pour ceux qui en ont beaucoup. Ça va ? Vous m'arrêtez si ça va trop vite. Ça va ? Et donc, disent les chercheurs, si on veut accroître durablement le lexique, durablement, ça veut dire au-delà de la séance, au-delà de la semaine et au-delà même du mois. Si on veut que les mots qu'on enseigne à l'école maternelle soient là et pour toujours dans la tête des élèves, alors il faut inclure des activités spécifiques. Et là, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, pas des activités spécifiques du type un mot par jour qui n'a rien à voir avec rien, qui déboule d'on ne sait où et qui repart d'on ne sait où, mais bien, et là je cite les auteurs, des mots qui sont inclus longtemps dans la pratique de classe, nous, et Snell, etc., beaucoup disent, attachés à la lecture d'albums. On peut tout à fait imaginer, et nos collègues qui sont conceptrices avec nous sont en train de le faire, et Catherine va être contente, elles sont en train de transposer tout ce qu'on fait en compréhension en lecture sur les albums, elles sont en train de faire la même chose sur le lexique scientifique, avec la même intensité, avec la même méthode, avec les mêmes tâches, mais elles sont en train de monter tout un dispositif d'activités scientifiques dans leur classe de maternelle, et elles ont transposé tout notre enseignement lexical sur les albums autour de l'enseignement lexical scientifique. Et si ça intéressait Catherine qui est dans la salle, elle pourrait venir voir ce que ça donne sur les apprentissages des élèves, c'est remarquable. Voilà, donc juste dire ça, des activités spécifiques qui peuvent être dans le champ de la compréhension de lecture, c'est mon domaine, mais on voit comment ces activités spécifiques, elles sont transposables dans d'autres champs que la lecture, elles restent durables, systématiques et longues, sur un temps long, et voilà, ça va ? C'est clair ce que je raconte. Attention. Il existe dans tous les milieux de très fortes disparités de pratiques. Oui, en tendance, on lit plus dans les milieux favorisés. Mais dans certains milieux favorisés, on n'a pas le temps de lire. Oui, en tendance, on lit peu dans les milieux populaires. Mais dans certaines familles, on lit beaucoup. Et je vous raconte juste cette petite expérience. En fin juin l'année dernière, une des écoles impliquées dans la recherche m'a demandé de faire une conférence sur la recherche, sur l'étude menée avec Isabelle, aux parents. C'est une école de REP+. Et donc, je suis allée faire une conférence à 4h30 dans l'école. Les enfants étaient conviés et les enfants étaient partenaires de la recherche parce que ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient avec nos scénarios. Je souris parce que les enfants étaient vraiment parfaits. Et là, je fais la conférence, etc. Et puis, quand la conférence s'arrête, les mères viennent me parler, les mères et les pères, enfin, une partie, pas tout le monde, en disant « Oh, c'est vraiment bien ce que vous faites, les enfants, etc. » D'ailleurs, vous savez... On a acheté tous les livres parce qu'ils voulaient les livres à la maison. Et puis, on a acheté les DVD. Et puis, vous savez, il y a la suite de Gruffalo, ces petits Gruffalo. Et vous avez vu, elle a sorti un nouveau livre, un bâton, là, un petit bonhomme de bois. Et voilà. Donc là, toutes les familles de milieu populaire ne sont pas éloignées de la culture écrite, etc. Donc attention à ne pas surgénéraliser les caractéristiques moyennes d'une population. Et que tous les enfants de milieu populaire... Tous, alors là c'est tous, bénéficient chez eux de transmissions culturelles qui s'avèrent très utiles pour la compréhension en lecture. Tous les enfants de milieux populaires entendent raconter des histoires, entendent leur grand-mère qui leur raconte des choses qui se passaient au village quand elle était petite, entendent leurs parents raconter des événements, voient des DVD, voient des films. Donc encore une fois, ils n'ont peut-être pas d'album à la maison, mais ils ont tout un tas d'autres outils qui leur permettent de faire connaissance avec la grammaire des histoires. Quand ils regardent Le Petit Chaperon Rouge à la télévision, quand ils regardent L'Âne Trot-Trot, quand ils regardent que sais-je, eh bien, ils commencent à maîtriser la grammaire des histoires. Ce qui va faire la forte différence, c'est que le dessin animé dit tout, montre tout, explique tout, quand les auteurs de la littérature de jeunesse vont tout faire pour que justement tout ne soit pas dit. Et plus on travaille avec des enfants petits, d'ailleurs, plus on observe que l'auteur ne dit pas tout. Quand le texte s'allonge, on en dit un peu plus long. Ça, je vais peut-être un peu trop vite sur cette question, je pourrais y revenir. Mais en tout cas, la différence majeure entre le dessin animé et l'album, c'est bien que l'album, l'auteur compte beaucoup sur l'intelligence du lecteur quand l'auteur de DVD montre tout, toutes les actions, toutes les causes et toutes les conséquences. et donc que certains élèves vont avoir pris une certaine avance sur l'explicitation de l'implicite des textes, quand les autres, eh bien, n'auront pas pris cette avance-là. Ça va ? Mais il n'empêche qu'ils ont des connaissances sur la grammaire des histoires. Voilà, c'est ce que je dis ici. Peu de contact aussi avec la langue écrite. Hein ? Un contact avec la langue écrite via les DVD, certes, mais pas un contact fort avec la langue écrite. Et là, je vais citer Jean-Pierre Terrail. Je m'excuse pour les gens qui m'ont déjà entendu, mais c'est ma phase Lucchini. J'adore ce texte parce que pour moi, il dit tout de la refondation de l'école. Il dit tout de la manière dont on peut rêver qu'une autre école est possible. Et il me semble qu'on en a besoin en ce moment, quand on fait de la formation avec les enseignants, on a besoin de repartir ensemble sur quelque chose d'un peu fort. Que dit Jean-Pierre Terrail, sociologue ? Qu'ont donc les enfants du peuple que méconnaît toujours la perspective comparatiste ? La perspective comparatiste, c'est celle que j'adopte depuis le début. Les enfants de milieu populaire versus les enfants de milieu favorisé. On a aussi les enfants présentant des besoins particuliers par rapport aux enfants au développement typique. C'est ça, une perspective comparatiste. Qu'ont-ils donc, ces enfants, que méconnaît toujours ? Pourquoi méconnaît toujours ? Parce que chaque fois qu'on va les comparer avec des enfants de milieu favorisé, on va dire « il manque d'eux, ils ont moins d'eux ». Quand je dis tout de suite « attention, c'est pas pareil chez tous les gens, chez tous les parents » et « attention, ils ont aussi un contact avec, avec des histoires », bien là, je sors de la comparaison. Mais donc, qu'ont donc ces enfants ? Quelque chose d'évident, mais dont il faut mesurer toutes les conséquences. Ils sont les protagonistes de notre commune humanité. Ils en partagent les biens universels, à commencer par l'accès à la parole, une qualité, à vrai dire, essentielle pour notre propos. J'entendais mardi une conférence de Sophie Kern, qui travaille à Lyon, et qui disait « Tous les enfants naissent câblés pour parler ». Voilà. Ils partagent avec tout humain une compétence linguistique de base, la capacité à enregistrer et utiliser des mots nouveaux, à construire des phrases, à comprendre et se faire comprendre. Donc, ce que nous dit là Jean-Pierre Terrail, c'est que tous les enfants qui entrent à l'école maternelle, quel que soit leur bagage, quelles que soient les pratiques dont ils ont profité, ils nous arrivent prêts à apprendre. Tous les enfants ont donc les moyens d'une entrée normale dans la culture, écrite, à condition qu'on vise pour tous, dans une perspective démocratique, l'exigence cognitive et linguistique qui est celle des familles cultivées à l'égard de leurs propres enfants. Voilà. Ça fait du bien de se redire ça. Et ça fait aussi du bien de se dire qu'il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'entendre lire et raconter la même histoire, même en étant très sage, pour comprendre l'histoire. Pour en apprendre le vocabulaire, pour en mémoriser la syntaxe et pour comprendre ce que l'auteur ne dit pas et nous laisse le soin de découvrir, d'imaginer, parce qu'il mise sur notre intelligence. Dans Naramous, avec Isabelle, on écrit tout le temps ça. On écrit, dans certaines de nos séances, là, les amis, l'auteur n'a pas écrit ça parce qu'il sait que vous êtes malins. Et je vous fais le pari que je vais vous afficher le texte. Et comme vous avez déjà lu l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 2, et que le 3 ressemble étrangement au premier et au deuxième, vous allez pouvoir lire le texte. Pas le lire vraiment, mais vous pouvez savoir ce que le texte dit. Et là, évidemment, on ne va pas les mettre en difficulté. Bien sûr qu'ils y arrivent, et ça les rend fiers. Parce que, oui, on a raison de miser sur leur intelligence. Ils sont capables de déduire, de comprendre plein de choses à condition qu'on leur apprenne. Alors j'ai dit, il ne suffit pas d'eux entendre raconter 100 fois la même histoire. Ça va tout ça ? Eh bien, je vais utiliser les données de la recherche Lire Écrire pour dire que oui, c'est vrai. Vous connaissez tous cette recherche ? Qui ne connaît pas ? Très bien, donc je ne raconte pas. Ah, c'est bien. C'est quelqu'un qui va dire, moi, je ne connais pas. Bon, donc une recherche, ça va, vous la connaissez. Je ne vais rien en dire. Je ne vais rien en dire, sauf la question qui me préoccupe, l'influence du milieu social. En gros, on a testé, pardon, les élèves. Moi, c'est le seul résultat qui m'intéresse, évidemment, c'est quelles sont les performances des élèves à l'entrée au CP. Vous êtes d'accord que là, on récupère deux choses sur les performances des enfants. On récupère, évidemment, leur origine sociale. Ils vivent dans des familles, ne l'oublions pas. Et on récupère l'influence des pratiques pédagogiques sur le développement des enfants. Ça va ? Développement des compétences. Voilà ce qu'on récupère là. On ne récupère encore rien des pratiques mises en œuvre au cours préparatoire. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle l'étude CP, mais bon, voilà. On a fait passer plusieurs tests aux enfants, mais on en a fait passer un qui est la compréhension de texte entendu. Donc les élèves entendent un texte lu par un collègue Pierre Sèvres et ils doivent ensuite répondre à des questions. Mais le texte est entendu puisqu'ils ne savent pas déchiffrer et les questions leur sont posées à l'oral. Et puis un deuxième test qui est très connu, que vous connaissez parce que vous l'avez fait passer quand certains n'étaient pas nés. Vous rappelez, le bol n'est pas cassé, le chat dont j'ai tiré la queue m'a griffé, compréhension de phrase, Écosse. Hein, on l'a fait passer dans les années 97, CPA effectif réduit, vous vous souvenez? Vous n'étiez pas nés certains. Donc, voilà, on a ces deux données. L'un qui mesure la compréhension de texte entendu et l'autre qui mesure la compréhension de phrase syntaxiquement de la plus simple à la plus complexe. Hein. Le chat dont j'ai tiré la queue m'a griffé, c'est pas de l'oral, c'est de l'écrit. Personne ne parle comme ça. Enfin, normalement. Et voilà les résultats. Regardez à gauche, j'ai distingué les scores en fonction du milieu social de l'enfant. Vous voyez que dans la compréhension de phrases, et c'est intéressant, observez les élèves très défavorisés. Vous voyez que sur 25 phrases, ils en comprennent 18. Donc les élèves de milieu très défavorisé n'ont pas de problème à comprendre le langage oral quand il s'agit de phrases. Ça va ? Même phrase complexe. Allons voir maintenant du côté des textes entendus et comparons les performances des enfants favorisés par rapport aux enfants très défavorisés. Là, vous voyez que les uns ont en moyenne 62% de bonnes réponses, quand les autres ont 36% de bonnes réponses. Ce qui fait le problème des élèves, c'est bien la compréhension de texte, quand il faut tricoter les idées entre elles, relier le début à la fin, comprendre des inférences, mais la compréhension de phrases n'est pas un obstacle. Puisque là, on repose sur des compétences fortes, puisque c'est en moyenne. Hein. Ça va pour ça ? Donc, on a là le reflet au fond du fait que, les élèves de milieux défavorisés et très défavorisés ont de la peine à comprendre les textes qui n'étaient pourtant pas bien longs. Je dis ça, je vais le redire. Rappelez-vous que ça fait partie d'une des trois compétences attendues à la fin de l'école maternelle. Il n'y a que trois compétences attendues. Enfin, la première, elle est tellement énorme qu'on y reviendra. Mais la dernière des trois compétences attendues à la fin de la grande section, c'est comprendre un texte sans autre aide que le langage entendu. Ça va ? Donc, cette épreuve, elle est totalement adaptée au nouveau programme de l'école maternelle. Et vous voyez que cette compétence est encore massivement échouée dans une partie de la population. Vous comprenez pourquoi ? Je suis en train de justifier toute notre entreprise. Alors, allons maintenant essayer de comprendre. Non, regardons ici. Quand on regarde la part de variance expliquée par les caractéristiques sociodémographiques à l'entrée au cours préparatoire, en français dans le texte, quel est le poids que pèsent les pratiques parentales sur les performances des enfants ? Eh bien, en écriture, à l'entrée au cours préparatoire, les pratiques parentales ne pèsent que pour 5%. Autrement dit, rien du tout. Autrement dit, l'école fait compense totalement l'appartenance au milieu. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Hein ? De la même manière, sur le code, l'école compense, enfin, fait aussi bien, et on ne voit pas l'impact du milieu social sur les performances des enfants à l'entrée au cours préparatoire. C'est encore une bonne nouvelle. Mais la moins bonne, c'est sur la compréhension. Voilà. Donc là, en revanche, le poids des pratiques parentales pèse lourdement sur les performances des enfants. Si cette question vous intéresse, évidemment, vous retrouverez ça dans la synthèse des travaux et puis dans le rapport de la recherche Lire Écrire qui se trouve sur l'excellent site de l'IFE, Centre Alain Savary, je suppose. Non, l'IFE. Alors, oui, l'influence de la pédagogie de l'école maternelle est forte est forte, mais elle est faible en compréhension. À cela, plusieurs hypothèses. Je les ai listées lors d'une conférence qu'on avait faite sur la recherche. Je ne les partage pas toutes, mais j'ai recensé toutes les hypothèses possibles pour expliquer cela. La première, eh bien, c'est que ces compétences sont socialement tellement marquées et qu'elles sont peu sensibles aux interventions pédagogiques. Que pourrait faire l'école pour compenser ce que ces enfants ont chez eux? Comment l'école pourrait-elle compenser 1000 heures de lecture? Eh bien, je ne crois pas ça. Je crois que oui, l'école peut compenser. Si les parents y arrivent, en lisant un quart d'heure par jour à leur enfant et en étant un peu bousculé et en envoie, pourquoi l'école, avec 6 heures par jour, ne pourrait pas faire aussi bien, voire mieux? Je fais le pari qu'elle peut faire beaucoup mieux. Parce que les enseignants sont beaucoup plus compétents que n'importe quel parent pour enseigner la compréhension en lecture. Les parents, ils lisent, quoi. Nous, on bosse. Des compétences trop peu enseignées, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse avec cette idée qu'ils sont déjà, ils sont encore bien petits, qu'au fond, il suffit de lire et ça ira bien, que voilà, ça viendra. Et l'autre hypothèse, la dernière, des enseignants qui ne disposent pas des outils adéquats, c'était mon autre hypothèse. Et voilà pourquoi nous nous sommes lancés en 2014 sur la conception d'outils pour les maîtres. C'est mon hypothèse et je vais citer mes collègues de l'inspection générale qui disent la chose suivante en 2011. À l'école maternelle, on trouve beaucoup de lectures offertes, mais peu de travail sur la compréhension. Et pourquoi les inspecteurs généraux écrivent ceci? Parce que les IEN qui ont renseigné l'inspection générale observent ça dans les classes. Hein. Ce n'est pas l'inspection générale qui a fait le travail toute seule. Hein. Les emplois du temps en font régulièrement la promesse. On lit beaucoup d'histoires aux enfants des écoles maternelles. Mais les mêmes emplois du temps sont dans un très grand nombre de cas muets sur l'organisation de séances de travail dévolues à la compréhension des textes entendus en eux-mêmes et dans la relation qu'ils entretiennent avec les images qui le plus souvent les illustrent. Les situations d'écoute, ajoutent les inspecteurs généraux, sont indispensables et doivent être fréquentes. Elles constituent des ressources de langage scolaire, académique, nécessaires à la production d'un langage oral élaboré. Donc oui, il faut lire des textes, mais cela ne suffit pas. Au-delà, le travail sur la compréhension est indispensable pour que les enfants tirent bénéfice de ces lectures. Il faudrait que tous les maîtres, là on vous parle camarades, hein, dès lors qu'il y a « il faudrait que tous les maîtres », là on parle à vous, les formateurs, formateurs SP, etc. Il faudrait que tous les maîtres, inspecteurs, cadres de l'éducation nationale, soient plus rigoureusement préparés à distinguer ce sur quoi doit porter cette activité. Et je traduis les cibles à viser. C'est bien beau d'enseigner la compréhension, mais quoi? Comment ils peuvent la conduire? Je traduis les pratiques pédagogiques et didactiques, les tâches et les activités efficaces. Et je m'inscris dans ce mouvement actuel qui dit il est important de transmettre aux enseignants les pratiques qui ont fait leurs preuves. C'est important. Toutes les pratiques ne se valent pas et on sait que certaines sont plus efficaces que d'autres. Qui nous permet de l'affirmer? La recherche. Point. On peut se disputer là, hein, mais tout à l'heure. Mais je suis vraiment convaincue qu'il est important aujourd'hui de s'interroger sur l'impact des pratiques qu'on met en place et donc sur des pratiques qui ont fait leurs preuves. Evidence-based practices. D'où le programme de l'école maternelle. Le « d'où » vient de la recherche à montrer que les inspecteurs généraux, via les remontées terrain, observent que, donc le nouveau programme. N'oublions pas que le nouveau programme a été fait en partie par le comité de programme, qui est constitué en grande partie de chercheurs. De chercheurs, de formateurs, d'inspecteurs, etc. Mais donc le doux, il est bien là. Le programme de l'école maternelle nous dit que, tout au long de l'école maternelle, l'enseignante crée les conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous les enfants, même ceux qui ne s'expriment pas ou s'expriment peu, prennent la parole, participent à des situations langagières plus complexes que celles de la vie quotidienne. Ainsi, Il contribue à construire l'équité entre enfants et en réduisant les écarts langagiers. Vous faites tous la différence entre équité et égalité. Ok. Eh bien, c'est ça que nous dit le nouveau programme. Il nous dit aussi qu'il faut que l'enfant, alors c'est un titre, écouter de l'écrit et comprendre. Je regrette le « et » parce que ce n'est pas automatique, je l'ai dit. Je regrette, ça j'aurais préféré écouter de l'écrit et apprendre à le comprendre. Hein, parce que... Et donc, l'école maternelle occupe une place privilégiée pour offrir aux enfants une fréquentation de la langue de l'écrit très différente de l'oral de communication. L'enjeu est de les habituer à la réception du langage écrit afin d'en comprendre le contenu. L'enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les échanges qui suivent l'écoute. La progressivité réside essentiellement dans le choix des textes de plus en plus longs et éloignés de l'oral. Je parle là sous le contrôle des auteurs des programmes. Les programmes n'ont jamais vocation à dire comment faire. Les programmes ont juste comme vocation de dire ce qu'il faut enseigner. Et puis ensuite, le comment faire, ben ça nous revient. Ça revient aux enseignants, ça revient aux formateurs, ça revient aux concepteurs. Alors, les voilà les compétences attendues. Pratiquer divers usages du langage oral, raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. Je laisse un peu ça parce que vous allez voir comment dans Naramous on a essayé d'introduire tous ces verbes dans les activités qu'on propose aux élèves. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous du même registre et pas tous du même degré de difficulté. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte, vous verrez que dans Naramous, on est beaucoup plus ambitieux, puisque dans chacun de nos outils, on enseigne aux élèves les compétences requises pour pouvoir raconter tout l'album, à la maison. C'est ça l'objectif final. Quand on aura fini d'étudier l'album, tu vas partir à la maison avec ton matériel et tu vas raconter tout l'album à tes parents. Et comprendre les textes écrits sans autre aide que le langage entendu. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment. Quelque chose qui va devoir infléchir les pratiques des enseignants. Pourquoi cette prescription-là ? Parce que, et c'est Mireille Brigaudiot que je cite, elle écrit ceci. Si on veut apprendre aux tout jeunes enfants à s'intéresser à l'écrit, les mots, les phrases, le texte, et à faire un usage analogue des mots et des images, il faut dans un premier temps les empêcher d'utiliser les moyens de représentation le plus à leur portée, c'est-à-dire l'image. Là, c'est la révolution, là, en formation continue des maîtres. Ça va ? C'est la révolution. Quand on lit les nouveaux programmes et les compétences attendues, on se dit, bah oui, bon, c'est toujours pareil. Non, non, ça n'est pas pareil. Et donc, pourquoi ça ? Alors, je cite Brigaudiot, tout un tas de travaux de recherche, notamment Justice, Sénéchal, observe ça. Hein. Je ne sais pas si ça y est après. Alors, deux choses. On sait que tous les jeunes enfants, y compris les étudiants de Master 2, y compris les plus performants d'entre eux, sont incapables d'attention partagée, y compris les IEN, avec leur portable, leur mobile, y compris. Donc personne n'est capable d'attention partagée. On est capable d'attention partagée uniquement quand une des deux tâches est automatisée. Vous pouvez conduire et parler, vous pouvez marcher et réciter l'alphabet, ça, tout est automatisé. Dès lors qu'une des deux tâches n'est pas automatisée, les deux tâches ne sont pas automatisées, alors vous ne pouvez plus. Or, chez le jeune enfant, on ne peut pas penser que le traitement de l'image et le traitement du discours sont automatisés. Ce n'est pas vrai. Donc c'est impossible. Et donc, si ça, si ça, eh bien, on est tranquille que certains élèves vont, et alors, si j'utilise les données de Justice et de Sénéchal, je dis même 93% des grandes sections, hein, enfin non, pardon, 93% du temps d'attention des grandes sections porte sur l'image. 93% d'attention des grandes sections. Et quand c'est 7%, c'est quand quelqu'un leur dit « regarde, regarde, regarde ». En fait, c'est chez les parents qu'on étudie ça. Chez les enfants de 5 ans, entre l'image et le texte, l'attention des enfants est à 93% centrée sur l'image. Ça va ? Je suis claire, là ? on observe le regard de l'enfant, 93% sur l'image, et quand le papa ou la maman dit « mais non, mais regarde ça », alors là, ils y vont. C'est normal. Vous avez vu ce que décrit Bridaudio. Ils vont vers ce qui est le plus facile à traiter. Donc, voilà mon exemple. C'est ça, hein, l'exemple, il est là. Hein. Elle a petit ours brun dans les mains, elle a petit ours brun sur ses genoux, il y a des images partout, des doudous, des tout au milieu. Là. Ça va ? Ok. Petit ours brun est très en colère, elle lit. Il est comment, petit ours brun ?
Il a un pantalon marron, bah oui, tiens.
Bleu, bah oui. Donc, vous êtes d'accord que l'enfant ne traite pas l'écrit, n'entend pas l'écrit. Et donc, ce que nous dit le programme, c'est attention, il est important qu'il sache le faire. Et donc, très tôt, dans nos outils, on va utiliser une méthode alternative. Attention, on ne va pas lire Les Misérables aux grandes sections en leur disant « il faut que tu comprennes le texte entendu ». Mais dès la petite section, on va introduire cette pratique systématique, tout le temps, de dissociation texte-image. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas « il faut lire tout l'album et puis à la fin montrer les images ». Je ne dis pas ça. Je dis juste « voilà mon exemple ». Ma pratique alternative, c'est de dissocier la présentation du texte et de l'image. Donc, je suis la maîtresse d'école. Je prends mon livre. J'ai masqué la couverture. J'ouvre le livre et je dis « silence ». Et là, voilà, dans la classe, ça se passe exactement comme ça tous les jours. Et je dis, petit ours brun est très en colère. Il est comment, petit ours brun ? En tolère. Voilà. Alors, à quoi on voit qu'il est en colère, petit ours brun ? Et là, traitement de l'image. Rappelez-vous ce que disaient les inspecteurs généraux. Le rapport texte-image n'est pas enseigné. Maintenant, on va traiter. À quoi on voit qu'il est en colère, petit ours brun ? Il pleure. Voilà, il pleure. Comme toi, ce matin, tu étais en colère parce que tu n'as pas voulu prêter ton jouet à Truc-Muchette, là. Et tu étais en colère et tu as pleuré. Ben, tu vois, petit ours, c'est comme toi. Et il donne des coups de pied. Vous voyez les coups de pied, là ? Ça, c'est pas évident pour des petits, les deux traits qui veulent dire des coups de pied. Donc, on va traduire. Regardez aussi avec son pied, là, il donne des coups de pied au cochon. Vas-y, va toi là-bas donner un coup de pied au cochon. Là-bas. Ça va ? On traite l'image, on traite le texte. Et puis, on lit la page suivante. Maman arrive et on montre l'image suivante. C'est bon ? Alors, du point de vue du développement du jeune enfant, ne pas voir l'image immédiatement oblige à traiter l'écrit, les mots, la phrase, le texte. Ils n'ont pas le choix, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, il n'y a rien d'autre à faire si les enseignants ont adopté l'idée que quand on est au coin regroupement, il est important de masquer tout ce qu'il y a au mur. Hein, voilà. J'y reviendrai si ça vous intéresse. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de traiter l'écrit, les mots, la phrase, le texte. Et donc, traiter, ça veut dire quoi ? Fabriquer une image ou un petit film dans sa tête. Mais, évidemment, et là, attention, là je parle surtout pour les gens qui travaillent dans les milieux plus populaires, pour pouvoir fabriquer cette fameuse image mentale des mots, de la phrase et du texte, encore faut-il que les enfants disposent des connaissances qui leur permettent de le faire. Si je vous dis gâteau, vous êtes tous capables de fabriquer une image mentale de gâteau ? Ça y est, vous l'avez ? Maintenant, je vais vous demander de fabriquer l'image mentale de glume. Tout le monde rit, sauf Catherine, qui est forte en sciences. C'est-à-dire que Catherine, elle sait ce que ça veut dire, glume, donc elle a immédiatement l'image dans sa tête. Eh, c'est dommage pour vous. Et oui, vous ne pouvez pas fabriquer l'image parce que vous ne connaissez pas le sens du mot, mais quelqu'un qui connaît, c'est... Et donc, encore une fois, attention, et donc je dis Isabelle y reviendra parce qu'elle vous dira comment on anticipe ça avant de lire l'album, mais je ne dévoile pas son exposé. Alors, vous vous rappelez ce que disait l'inspection générale ? Il faut que les maîtres soient formés à ce qu'il faut enseigner. Et j'avais traduit les cibles. Vous vous souvenez ? Alors j'y vais. Les cibles. Pour les cibles, j'ai fait semblant de tout prendre là-dedans. Ce n'est pas vrai, mais c'est une très bonne synthèse. Donc, évidemment, nous avions pioché avec Roland Guagou dans tout un tas de textes et d'articles de la littérature scientifique, mais celle-ci en fait une synthèse absolument géniale. Ne nous en privons pas. Donc on a là toute la liste des spécialistes de la lecture, justice, bref. C'est malheureusement en anglais, mais enfin. Alors voilà leur cible. Leurs cibles ne vous étonneront pas. Alors, quand je parle de cibles, il faut que j'explique comment ils ont travaillé. Ils ont fait un travail de méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher toutes les études qui avaient été construites de manière suffisamment scientifique et correcte pour qu'on puisse espérer en avoir des résultats avérés. Par exemple, certains travaux de recherche disent qu'ils ont fait la preuve scientifique que leur méthode est efficace pour apprendre à lire aux enfants de moyenne section de maternelle, alors qu'au départ, il n'y a pas de prétest et qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Ça va ? Vous voyez de quoi je parle ? Ou pas ? Donc, on ne peut pas dire que cette méthode est efficace et meilleure qu'une autre si on n'a pas, au départ, vérifié que les enfants étaient les mêmes que la population ordinaire, et si on n'a pas vérifié aussi que une autre méthode était également efficace, enfin ça va. Donc il y a des travaux scientifiques qui n'en sont pas parce que ils ne remplissent pas les critères de scientificité. D'autre part, certains chercheurs disent notre programme est bien meilleur que les pratiques habituelles des maîtres, puisqu'on arrive à apprendre à lire à des enfants de moyenne section. Certains disent ça, mais sauf que ça n'est pas au programme. Donc, évidemment que si vous comparez avec des maîtres ordinaires qui respectent la prescription de l'éducation nationale, vous allez montrer que les pratiques ordinaires sont inefficaces sur un objectif qui n'est pas l'objectif de l'école. Et donc, on ne peut pas dire ça. Ça va, ça ? J'espère que... Voilà. Donc, ça n'est pas le cas de ces études-là, qui, elles, ne cherchent pas elles-mêmes quelque chose, mais qui vont recenser tous les travaux publiés dans des revues scientifiques reconnues et qui ont fait la preuve de scientificité. Donc voilà ce qu'ils citent comme cible. Le langage scolaire. Il faut apprendre aux jeunes enfants les formes de communication et les mots présents à la fois dans les livres et à l'école. Là, vous retrouvez Bautier. Elisabeth Bautier, vous retrouvez toutes ces sociologues qui disent « Si on veut ouvrir les portes de l'école à tous les enfants, encore faut-il leur donner toutes les clés, et notamment langagière. » Les gens qui étaient à la formation Réplus dernièrement retrouvent le discours d'Elisabeth Bautier depuis longtemps. Et puis les compétences langagières scolaires, c'est-à-dire les compétences qui permettent aux élèves d'utiliser et de comprendre le langage de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir, penser, entourer, barrer, catégoriser, serrer, comparer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas seulement dans le sens. Qu'est-ce que ça veut dire comme opération mentale et donc qu'est-ce que ça veut dire comme activité intellectuelle ? Pas seulement comprendre que c'est le mot. Comment on compare efficacement? Comment on série efficacement? Comment on ordonne efficacement? Ça va? Et puis, toutes ces compétences langagières scolaires sont déclinées en trois modalités. Les compétences langagières inférentielles. Cette capacité à aller au-delà de l'information littérale. Et là, on est dans le texte. Ce que le texte ne dit pas, ce que l'auteur ne dit pas, mais nous laisse entendre. Puis, les capacités langagières narratives. Les capacités à comprendre et à relater clairement une série d'événements. Donc voilà les cibles. Apprendre à comprendre, apprendre à raconter, apprendre à comprendre les inférences. Dernière cible, la capacité à comprendre et à utiliser les mots et les structures grammaticales du langage écrit. Voilà la synthèse des travaux de recherche en 2016. Eh bien, c'est toutes ces cibles-là, évidemment, qu'on va réintroduire dans Naramus. Autre recommandation, toujours dans le même document, c'est la troisième, hein, les deux premières j'en ai déjà parlé. C'est enseigner le vocabulaire scolaire dans de multiples activités de lecture, mais aussi engager les élèves dans des conversations scolaires qui favorisent l'utilisation et la compréhension d'un langage inférentiel. Voilà, j'en ai fini avec les cibles. Maintenant, comment ? On a les cibles, je les redonne, ou ça va ? On a apprendre à comprendre, apprendre à raconter, apprendre le vocabulaire et la syntaxe, et on a apprendre à produire des inférences. Les causes. C'est beau ? Comment ? Et là, vous l'avez compris, ou pas, mais en tout cas il faut se le redire, il y a un véritable consensus scientifique sur les cibles, en recherche et dans le métier. Donc là, on est tous d'accord. Mais après, il y a des perspectives différentes sur le comment. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux types d'outils. deux types d'outils. Les premiers qui adoptent une perspective modulaire, basée sur l'enseignement de chaque compétence de manière isolée. L'outil égale un module spécifique pour chaque compétence, des modules successifs. Et là, on retrouve ça dans l'outil qui est publié par la Cigale, Compréhension de la langue, qui a été édité par Maryse Bianco et ses collaborateurs, que vous connaissez sans doute. Et donc, si on reprend les cibles, on va les trouver ici. On a, première activité, recherche d'anomalies, recherche d'incohérences. Deuxième module, comparaison texte-image. Troisième module, construction d'un modèle mental. Quatrième module, choix du bon modèle parmi plusieurs modèles. Résolution de devinettes, traitement des connecteurs, traitement des pronoms, prise d'indices, constitution d'un récit. Et donc, vous voyez que dans cette perspective, eh bien, on a bien les mêmes cibles, mais on les enseigne les unes après les autres. Ça va ? Deuxième manière de penser, une perspective intégrée, c'est la nôtre. Basée non pas sur la cible, l'anaphore, le pronom, le connecteur, mais basée sur le texte long. C'est le texte long qui fait l'entrée, c'est l'album qui fait l'entrée, et les cibles sont travaillées en fonction du texte et tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de module pour anaphore, mais dès lors que dans le texte on va trouver un problème d'anaphore, alors on va traiter. Mais dans tous nos scénarios, toutes les cibles sont travaillées. Le lexique, la syntaxe, les anaphores, les connecteurs, etc. Donc vous voyez que c'est deux approches qui sont très différentes. Dans la première, on enseigne les compétences de manière isolée et charge à l'enfant de les tricoter en situation. De notre côté, on les enseigne également de manière isolée, mais à propos d'un texte. Est-ce que ça va ? Ok. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de dire si une approche est supérieure à l'autre. Il n'y a pas d'études qui ont été faites pour comparer. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a des mêmes cibles et différentes manières de concevoir l'enseignement. On sait par exemple, et ça on l'a montré, c'est Rötzel qui a montré ça, qu'en science, dans les activités scientifiques ou à l'école élémentaire, quand on enseigne les stratégies de manière isolée, donc sur de textes scientifiques, donc les cibles, eh bien, l'approche intégrative produit de meilleurs résultats que l'approche modulaire. Mais attention à ne pas en faire une surgénéralisation en disant « Ah ben du coup, c'est pareil à la maternelle sur des textes narratifs. » On n'a pas le droit de dire ça. Donc un jour, on pourra faire cette étude de comparer différents types de programmes et quels effets ça produit sur les élèves. Vous savez que l'équipe de Maryse Bianco a montré que oui, ça produisait un certain nombre d'effets sur le développement des enfants. Nous sommes en train de faire la même chose avec Naramus. Voilà. Donc, c'est pas le même objectif. Ce sont les mêmes cibles, mais pas les mêmes objectifs. Rappelez-vous. Et donc, également des modalités de conception différentes. Dans le programme de Maryse Bianco, c'est bien une équipe de chercheurs auxquels s'adjoignent des conseillers pédagogiques qui conçoivent les outils pédagogiques et qui les proposent aux enseignants. Nous avons, de ce point de vue, une méthode originale que je vais présenter en quelques mots. Je vois l'heure qui tourne. Donc, nous faisons une synthèse des savoirs disponibles, c'est celle que je viens de vous présenter, sur les processus d'apprentissage des élèves, sur les besoins d'enseignement des élèves et sur les pratiques ordinaires des enseignants. Et aussi sur les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on introduit quelque chose dans l'outil Naramus, c'est qu'on sait que quelqu'un, quelque part, a prouvé que ça marchait. Mais isolément. Nous, maintenant, on doit montrer que cette chose a marché isolément. Est-ce qu'elle marche toujours quand elle est intégrée dans un module au complet ? Et on fait l'inventaire des caractéristiques didactiques et pédagogiques à privilégier. Par exemple, on sait que cette pratique pédagogique est plus efficace que telle autre. Voilà. Et là, eh bien, on élabore un premier scénario, un premier prototype qui est un compromis entre ce qu'il serait bon de faire, selon la recherche et selon la prescription, et ce qui est raisonnable. C'est-à-dire ce que nous pensons a priori que les maîtres jugeront utile, utilisable et acceptable. Et là, épreuve du feu. On met le premier prototype dans les mains de 10 enseignantes de maternelle qui vont l'utiliser et que nous allons aller voir, qui vont noter plein de choses, le temps qu'elles y passent, etc. Ce qu'elles ajoutent, ce qu'elles adorent, ce qu'elles détestent, ce qu'elles ne font pas, ce qu'elles font tout le temps, etc. Et puis, pendant un mois, elles utilisent. On va les voir à la fin du mois et on recense tout ça. Évidemment, quand tout le monde rejette, c'est facile, on jette. Enfin, pas toujours, mais quand même. Quand tout le monde adore, c'est facile, on garde. Et puis, parfois, il y en a qui disent oh, « Mais ça, mais quelle horreur, mais quelle idée, moi, j'ai pas fait, c'est horrible. » Et l'autre à côté qui dit « Attends, c'est bizarre, moi, j'ai adoré. » Ça commence à être rigolo. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on en fait parler. Donc, celle qui a détesté explique pourquoi, et celle qui a adoré explique pourquoi elle a adoré. Et là, on entend que quand elle a transformé. Elle a adoré parce qu'elle l'a plutôt fait comme ci, elle l'a plutôt présenté comme ça, et ta, ta, ta. Vous voyez, là, on voit du métier qui parle, une même tâche qui est menée autrement et qui devient extrêmement plus performante quand elle est passée par leurs mains que quand elle était passée par nos têtes. Donc, évidemment, vous comprenez que là, on va tout fédérer et on va élaborer un deuxième prototype. Cette fois, on va les mettre dans les mains de 30 nouveaux enseignants qui vont faire le même travail. Mais évidemment, comme il a déjà été passé au crible des premiers, il y a beaucoup moins de réglages à faire, mais beaucoup plus d'inventions dans le deuxième groupe. Parce que les premières, elles ont plus ce travail d'aller-retour, de transformation. Les deuxièmes, ils font de la dentelle. C'est magnifique ce qu'ils font. Et donc, vous allez voir, je vais essayer de le dire, et Isabelle aussi, chaque fois que je vais présenter quelque chose, dire « Ah, ben ça, ça vient des deuxièmes. » Ou « Ça, ça vient des premiers. » »« Ça, ça n'était pas au départ. » Et c'est passionnant de voir comment, quand les gens sont libérés d'avoir à faire un outil, ils deviennent mais excellents dans l'invention, dans la dentelle. Ils n'ont plus à faire le gros œuvre. On l'a fait et ils font des trucs. Mais de pas de la dentelle du style des pratiques, mais de la dentelle des choses qui tapent trop bien, quoi. Vous voyez ce que ça veut dire dentelle dans ma tête ? Ça ne veut pas dire des trucs incroyables, mais des activités qui sont parfaites. Exemple, je le donne. On a beaucoup d'enseignement lexical avec des systèmes qu'Isabelle va donner. Et tout le monde fait ça et tout le monde adore. Et puis, à un moment, il y en a une qui dit « Ah ben moi, j'ai eu une idée. J'adorais ce truc de lexique, mais je trouvais que c'était un peu statique. J'ai fait en salle de motricité. J'ai fait dicter de mots en salle de motricité et les gamins adorent. » Ça vient de dire « Moi, ça ne m'était pas venu à l'idée. » Et donc, vous voyez comment, en motricité, quand on dicte les verbes, comment c'est drôle. Un verbe, ce n'est pas drôle quand on a pas, qu'on a une photo. Quand on dicte sursauter, quand on dicte partir, et les gamins, ils adorent ça. Et ben voilà, c'est ça la dentelle pour moi. Et c'est génial, ce passage au corps. Ce passage, alors c'est la grande mode, excusez-moi, je vais l'apprendre. Tout le monde parle de ça en ce moment. Ce qu'on appelle l'embodied cognition, la cognition incarnée. Hein, tout le monde montre comment chez les petits, le développement qui associe le corps, la tête et le langage, c'est très bien. Ben là, on a un très bel exemple d'invention d'un enseignant, d'une équipe autour de ça. Ça va ? C'est ça, la dentelle. Donc, on élabore un troisième prototype et là, on le donne et c'est ça le travail. Aujourd'hui, qu'Isabelle va présenter, on l'a mis dans les mains de 200 enseignants qui ont fait... Et puis, on a évalué les effets et on publie l'outil. Je passe parce que ça, c'est Isabelle. Et voilà, et publication de l'outil. Donc, vous voyez que là, on a eu toute cette partie de conception avec mes 30 enseignants. Et l'année dernière, on a évalué l'outil auprès de 200 enseignants de plus. Mais bon, qui ont utilisé en petit, en moyen, en grande section. Et cerise sur le gâteau, si vous ne partez pas avant la fin, vous aurez les résultats. Et voilà, bien sûr qu'il faut faire la speakerine. Voilà. Donc, je vais rentrer maintenant dans l'outil. On fait quoi ? Bah déjà, on lit les trucs, on lit le programme. Ah, déjà. Et on va tout intégrer. Des modalités spécifiques d'apprentissage, apprendre en jouant, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s'exerçant, apprendre en mémorisant et en se remémorant. J'adore cette entrée de la mémoire dans le programme de maternelle. Je l'adore. Je le dis entre nous, je fais un stage de formation continue l'année dernière, 3 semaines, sur l'école maternelle. Première question que je pose à mes enseignants, j'adore me les approprier. La semaine dernière, combien de fois avez-vous dit à vos élèves « ça » Les amis, ça va être dans la tête et ça va être pour toujours. Ça, c'est bon ? Alors, on y va. Combien de fois avez-vous dit aux élèves, il faut se rappeler ça, il faut se mettre ça dans la... Il faut que vous le mettiez dans votre tête. Combien de fois? En moyenne, j'ai dit, hein. Avec cette idée que si ça revient, si c'est souvent, si là, c'est dans la tête. Bon, voilà, donc nous, ce truc de 2.4, là, 2.4, on l'a vraiment pris au sérieux. Et voilà nos cibles. Ben, j'ai même pas besoin de les relire parce que ça va de soi, c'est les mêmes que celles qui sont extraites de la littérature. Et maintenant, comment est-ce qu'on les met en musique, ces objectifs? Alors, nos objectifs... Je vois des gens qui prennent des photos, mais c'est dans la ramousse, hein. Alors, nos objectifs. Apprendre à comprendre les histoires en profondeur. Là, vous voyez que c'est nos objectifs pédagogiques. Vous voyez pourquoi ça ne joue pas, les conférences pédagogiques, tiens, au fait. C'est qu'une fois que j'ai dit ça au maître, il faut travailler les compétences narratives. J'ai fait, je parlais vite, hein, mais si je vais doucement, je fais 2 heures. On mardi soir, 5 à 7, c'est fini, les amis. Allez, rentrez dans vos classes. Et maintenant, allez-y, enseignez ça. Vous voyez que ça ne peut pas jouer. Ok. Nos objectifs. Là, on est dans des objectifs pédagogiques. Vous voyez qu'on est en train de traduire ça en objectif pour la classe. Qu'est-ce que ça veut dire, compétences narratives en réception? Ça veut dire apprendre à comprendre les histoires en profondeur. Vous voyez cette activité de traduction, qui peut la faire? Je me sens un peu utile. Puis, apprendre, compétences narratives en production. Apprendre à jouer et à raconter les histoires étudiées en classe. Ensemble, avec l'enseignante, avec la TSEM, avec les camarades, puis tout seul à la maison. Traduction. Tous les apprentissages visés sont organisés autour de ce projet-là. Comprendre, raconter. Bien sûr, il va y avoir le lexique. Parce qu'on ne peut pas comprendre sans lexique. Bien sûr qu'il va y avoir les inférences, parce qu'on ne peut pas comprendre sans. Mais tout est organisé autour de ça. Et tous nos scénarios sont construits autour d'histoires de la littérature de jeunesse que les petits adorent. Et oui, bien sûr que les maîtres adorent peut-être un peu moins. Mais voilà, entre la sieste de Moussa et Ami Ami, j'ai choisi la sieste de Moussa. Et donc c'est pour mieux comprendre et c'est pour mieux raconter. Donc vous comprenez, hein, ça c'est l'objectif central, que les élèves devront mémoriser le vocabulaire. On ne peut pas raconter si on n'a pas acquis le vocabulaire pour raconter. Acquérir de nouvelles tournures syntaxiques. D'écrire et commenter les illustrations, retenir les idées principales, s'interroger sur ce que pensent, ressentent, savent, croient les personnages. C'est fini? C'est tout? Ça va? Donc, un enseignement basé sur l'étude d'albums de la littérature de jeunesse. Un scénario, un mois d'études, de multiples activités qui reviennent au fil d'un même scénario, une ritualisation. Ça revient partout, tout le temps. On assoit des habitudes de traitement cognitif. C'est pas on fait ça une fois, on ne le refera plus jamais. C'est vas-y, applique-toi parce que tu verras que là, ça va t'être utile toute ta scolarité de maternelle. De multiples activités qui reviennent au fil de tous les scénarios. L'autre jour, dans une de nos écoles, commence la deuxième année de mise en œuvre des scénarios, ceux qui sont impliqués dans la recherche. La maîtresse commence et elle dit « Aujourd'hui, on va commencer un nouveau scénario, vous allez apprendre à raconter la chèvre biscornue. » Et tous les gamins disent « Elle est où la maquette ?» Voilà. Donc là, les gamins, ils savent qu'ils vont y avoir la maquette. Elle commence et dit « Mais c'est quoi, t'as pas résumé l'histoire ?» Ah, bon, alors, c'est l'histoire de blablabla. Vous voyez, les gamins, ils sont capables de contrôler leurs apprentissages. C'est ça, l'autorégulation. C'est pouvoir planifier, organiser sa manière de traiter. Et un enseignement explicite. Là aussi, hein, je réponds au nouveau programme. Hein. Avez-vous compté le nombre de fois où explicite est dans le nouveau programme de l'école maternelle? Beaucoup. Je crois me rappeler que c'est 22 fois. 22 fois le mot explicite, explicité, expliqué. Donc là encore, je réponds à la prescription. Un enseignement explicite. Attention, hein. Ne confondons pas enseignement explicite et j'annonce l'objectif de la séance. Hein. C'est pas ça. Donc, un enseignement explicite de quoi? Des connaissances, des compétences, des savoir-faire, des attitudes systématiquement explicitées. Des connaissances. C'est ça quand on dit que certains enfants n'ont pas les clés de l'école. Donc, connaissances, compétences, savoir-faire, attitudes systématiquement explicitées. C'est autre chose que de donner l'objectif et de donner la stratégie en modelage. Je me fais rire toute seule. Un enseignement explicite, 8 pictogrammes, des consignes ritualisées au fil des scénarios. Là, je vais demander à la collègue de bien vouloir nous prêter son petit matériel qu'elle a fabriqué, c'est génial. Je l'ai vu, merci. Celui-là surtout, pour l'instant, après on y reviendra. Alors, merci, on va prendre certains. Je ne suis pas fan des logos, mais en l'occurrence, c'est trop bien. Là, il me semblait important pour faire gagner un temps précieux à tous les gamins et à tous les enseignants. Donc, premier logo, l'enseignant lit le texte. Donc, chaque fois... Donc, on travaille tout le temps avec un vidéoprojecteur, j'ai oublié de vous le dire. On ne travaille pas sans vidéoprojecteur. Naramou, sans vidéoprojecteur, ce n'est même pas la peine. C'est pas grave. Dans 10 ans, ça, l'histoire me donnera raison. Alors, l'enseignante lit le texte. Donc, un petit logo va s'afficher à l'écran, à gauche, avec ça. En fait, en soi, ça n'a aucun intérêt d'avoir un logo, sauf que la maîtresse va dire, ou le maître va dire, « Les amis, je vais lire, moi, le texte. » Ça va? Vous voyez l'image, c'est ma photo. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire pendant que je lis? Donc, on va expliciter, non pas ce que fait la maîtresse, elle lit, mais qu'est-ce que vous faites? On réfléchit dans la tête. Ouais, d'accord, non. On fait quoi avec sa tête? Quel est le travail? Ça va? Donc, on écoute les mots et on essaye, vous essayez, de transformer ce que je dis en image, en petit film. Bien sûr, le premier jour, ils ne vont pas y arriver. Et c'est heureux. C'est pour ça que ça dure 3 ans, Naramous. Le premier jour, ils ne vont pas y arriver. Ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande. Très bien. Alors, je vais vous lire l'histoire. Le début de l'histoire. Un passage. Mais après, je vais tout arrêter et je vais vous le raconter. Pourquoi? Je vais traduire les mots en langage adapté aux enfants. Je vais expanser, je vais expliciter l'implicite. Je vais tout faire pour que cette image qu'ils étaient en train de fabriquer, ils puissent la compléter avec une langue adaptée. J'avais l'exemple de... Voilà. Il faut que les enfants aient les moyens langagiers de faire cette transformation de mots en image et ne pas encore proposer l'image. Donc, je lis, puis tout systématiquement, je raconte. Enfin, je, pas moi. C'est ballot parce que... L'image qui vient après. Bon, il y a une autre image, c'est apprendre du vocabulaire. Une autre image, jouer la scène. Excusez-moi. Parce que c'est après que c'est intéressant. Ensuite, voilà. J'ai lu, j'ai raconté systématiquement. Ce point d'interrogation arrive à l'écran. Bing. Et là, arrêt buffet. Arrêt buffet, ça veut dire taisez-vous, je ne veux rien entendre. Juste essayez d'imaginer l'image que je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'image, essayez d'imaginer ce qu'il va y avoir dessus. J'attends. Non. Et au bout d'une minute, qui veut dire comment il imagine l'image? Et là, que font les enfants? Ils parlent. Ils parlent donc, ils racontent. Et vous voyez que dès ce moment-là, ils vont se mettre à raconter. Et à Moussa, eh ben, il fait dodo, après ses yeux, ils sont presque fermés. Ok. Alors, quelqu'un a une autre idée? Oui, il y a une souris qui le dérange. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir sur l'image? On y va, on regarde l'image. Et là, on commente l'image. Ça va? Cette dissociation texte-image. Et il y a toujours cet arrêt pour laisser aux élèves le temps d'élaborer. Le temps d'élaboration, le temps de construction. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur tête. Peut-être qu'ils font tout autre chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, on s'était dit, ça va, c'est bon, là, maintenant ils ont l'habitude, enlevant ce point d'interrogation. Mais il y a eu révolution. Ils hurlent. Il est où le point d'interrogation? On l'avait fait avec Gruffalo, on l'avait fait les 4 premières séances, et puis après on l'avait enlevé. Les gamins ont dit, on le veut. Hein. On le veut parce que c'est ce temps que tu nous laisses, toi la maîtresse, pour penser, réfléchir, élaborer. Et on a nos petites habitudes, quoi. Il ne faut pas nous changer nos petites habitudes. Ensuite, on va avoir cet autre logo qui les prévient qu'ils vont devoir inventer la suite, prévoir la suite. Et puis, on a ce logo qui va être que c'est un seul élève qui raconte l'épisode ou les épisodes, pas la classe. Pas d'abord un peu toi, et puis un peu toi, et puis un peu toi. Dans nos classes, quand un élève prend la parole pour raconter, il raconte du début à la fin. Personne n'a le droit de l'interrompre. Donc, normalement, ça, les gens disent « c'est pas possible en maternelle » et tout ça. Je peux témoigner que les 15 premiers jours, c'est l'enfer. Mais que après, c'est le paradis. C'est des écoles, c'est des classes où les gamins savent que quand la maîtresse va leur demander de raconter, personne va les interrompre. Ils ont donc le temps. Ils arrêtent de tout sauter dès que qu'ils se rappellent plus, ils arrêtent de renifler. Vous le connaissez quand ils ont peur qu'on leur coupe la parole, ils font ça. Moussa, il est fatigué. Tout ça pourquoi? Pour penser à la suite. Mais là, eux, ils savent que jamais on aura le droit de leur couper la parole. Sauf si eux disent, je sais plus. Et dans ce cas-là, c'est l'enseignant qui va aider. Si tu te souviens, alors après. Tu te rappelles, Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Et l'autre, il continue. Mais c'est un seul élève qui tient le récit. Et puis, attention, après, les autres sont prévenus. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'au début, eh bien, l'élève raconte, mais eux, ils vont avoir la parole. Et c'est promis. On aura ce logo qui apparaît. Et la classe aura le droit d'ajouter, de compléter, de corriger ce que l'élève a raconté. Et donc, ils savent quoi? Qu'ils auront le droit de rajouter des choses. Et ils savent aussi que quand ça sera leur tour, personne ne va venir leur couper la parole. Et c'est vraiment important. Je raconte ça, c'est une des écoles a été inspectée par l'inspection générale un jour où on avait postulé pour obtenir un prix de l'innovation. Et donc, des inspectrices générales sont venues voir des élèves. Et c'est ça qui les a le plus impressionnés. C'est qu'une élève... On en était au milieu de l'histoire de la sorcière dans les airs. Et donc, la maîtresse a dit « Qui veut raconter le début, donc les quatre premiers épisodes de la sorcière dans les airs pour ces dames qui ne connaissent pas l'histoire ?» Et une petite fille a pris la parole. Elle a pris la parole pendant 5 minutes. Et personne ne lui a coupé la parole. Et à la fin, ils ont ajouté des choses. Donc, vous voyez que c'est une habitude. D'ailleurs, c'est écrit dans les ressources d'accompagnement, cette chose-là, là. Cette idée-là, elle est noire sur blanc sur les ressources d'accompagnement. Ce qui était plus rigolo, c'est que les inspectrices générales étaient très étonnées de ce 5 minutes. Et donc, ils disent à la petite fille, mais comment tu as fait pour savoir tout ça? Et la petite dit, bah, on l'a appris à l'école, mais moi, cette nuit, je me suis raconté l'histoire dans ma tête. Après, je me suis dit, mais il y a un truc que je crois que j'oublie. Donc, ce matin, je suis allée au coin bibliothèque, on est en moyenne section. Hein. J'ai écouté le DVD, le CD, non, en fait, j'avais tout. Ça va quand même. Voilà. Et un déroulement de modules stabilisé. Ça, c'est mon grand dada. C'est que si on veut que les gamins autorégulent leurs apprentissages, il faut qu'ils s'attendent à quelque chose. Il ne faut pas que ça change. Il faut que ça soit stable. Que lundi soit comme mardi, mardi comme jeudi, jeudi comme mercredi. Voilà. Il faut qu'ils puissent s'attendre à des choses pour pouvoir contrôler. Comment peut-on contrôler ces apprentissages si tout change? Ce n'est pas possible. Donc, on ritualise. Là, vous avez la liste. On rappelle les apprentissages. Mémoire didactique. On n'entre pas dans un nouveau module, dans une nouvelle activité, sans avoir rameuté tous ses souvenirs. Ça s'appelle la mémoire didactique. Ce que tu as appris hier, c'est important. On en a encore besoin. C'est important. Tu n'étais pas là, c'est pas grave. Regarde, tes copains vont te raconter ce qu'on a appris hier. Ce qu'on a fait aussi. Mais c'est grave, par contre, si tes copains ne te racontent pas, parce que tu ne peux rien comprendre. Voilà pourquoi. Ça va ça, hein, ce que j'ai dit là. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est absent? C'est grave. Il faut lui dire, parce que sinon, il ne peut pas suivre. Révision du vocabulaire appris, rappel des épisodes précédents, découverte de la suite de l'histoire, différentes tâches et activités qu'on va vous présenter, parfois seules, parfois à deux, parfois à plusieurs, parfois ensemble. Du théâtre, beaucoup, tout de suite. Dès qu'on a lu un truc, on joue. On a les masques qui ont été fabriqués. Non ? J'ai mon assistante. Allez-y, bon, voilà, vous pouvez montrer. Les masques sont prévus dans le matériel. Hop, on a lu un petit bout. Hop, on joue. C'est mal joué, c'est pas grave. On joue. Et on joue. On a une maquette et des figurines. On joue. Activité des crochets, l'utilisation du lexique et fabrique. Alors ça, c'est plein de choses. On va les présenter. Voilà. Mais c'est tout le temps pareil. Donc les élèves savent très bien que quand on commence, eh ben, on va faire ça. Ça va ?
Je tiens.
J'ai dit ça. Bon, ça pour moi c'est important. Un apprentissage progressif qui s'inscrit dans la durée. J'aime beaucoup aller sur les blogs qui parlent de nous, de Lectorino ou de Naramous. Et là, il y a un blog qui parle de Naramous. Et il y a quelqu'un qui dit « J'ai commencé, ils ne savent pas faire. » Ben, c'est normal, c'est fait pour. Ça, c'est quand même intéressant hein, de voir stage de maternelle. La semaine dernière, combien avez-vous proposé d'activités dont vous saviez très bien qu'au départ, ils ne sauraient pas les faire ? Ah, c'est trop drôle, ça. Ah, non, c'est trop drôle. Pourquoi on va à l'école ? Pour apprendre des trucs qu'on sait déjà ? Non, sérieusement, c'est une belle question que je suis en train de poser, là. Donc, eh ben oui, ils ne savent pas faire, ben, c'est le but. Nous, notre truc, c'est développemental. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient meilleurs à la fin qu'au début. Et pas seulement parce qu'ils ont fait et refait et refait et refait, mais parce qu'ils auront appris, 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 appris. Donc, de multiples activités autour d'un seul et même album. Contrairement aux maîtresses d'école, le plaisir des retrouvailles avec l'histoire et les personnages, ce plaisir d'eux. Moi, vous savez, souvent, je vais dans les écoles et il y en a un qui vient me voir et fait « Tu connais Moussa ?» Alors, comment te dire ? Non ? Eh bien, je vais te raconter. Ah, Moussa, et ça fait 2 ans qu'ils ont fait Moussa. Ils adorent. Pourquoi ils adorent ? C'est la dernière ligne. Un développement de sentiments, de compétences énorme. Énorme. Être capable de faire ce qu'ils font, c'est énorme. Bon, le plaisir de retrouvailles, le plaisir de se retrouver dans un environnement et des tâches stables qu'on retrouve, le plaisir de comprendre ensemble, de dire ensemble, de jouer ensemble, de mieux en mieux. Relisez Pénac, s'il vous plaît. Chagrin d'école, page 155.